Bonsoir. Lancement officiel depuis vendredi dernier du processus de réduction des combattants rwandais FDLR dans les Kivu. Selon le gouverneur du Nord Kivu, c'est un peu plus de 5000 FDLR, dont 1400 combattants et leurs dépendants, qui sont concernés par ce processus. Mais seulement une centaine s'est rendue jusque-là. La société civile de Lubero dit attendre voir des FDLR la matérialisation de cette promesse, car ils ne sont pas à leur première annonce du genre. Quelle analyse faire de ce processus? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 2 juin 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir pour les autres de la radio Capi.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national de l'opposition, élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre du parti politique UNC. Honorable Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais vous auditeurs, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Pierrot Mouvirimate de Goma au Nord Kivu. Cette édition des FDLR est nulle et Kigali refuse le dialogue inter-rwandais. Il est impérieux que la communauté internationale exerce une pression sur le gouvernement rwandais, comme il avait fait sur le gouvernement congolais en 2003 lors de l'accord global de San City. Sans cette pression de la communauté internationale, la édition des FDLR reste un théâtre de chez nous et n'aura aucun effet positif. Merci de nous suivre à Goma sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les rebelles rwandais des FDLR ont annoncé leur propre désarmement vendredi dernier dans la localité de Kasekou, presque la limite entre les territoires de Walikale et Lubero au Nord Kivu. C'était en présence de plusieurs personnalités de la communauté nationale et internationale, invitées par ces rebelles eux-mêmes. Environ une centaine d'armes, une centaine de combattants ont été remis aux représentants de la SADC, lui-même présent à Kasekou. Les détails avec vous, Rosalie Zawadi.
En ces premiers jours de leur vie dans ces sites, ces combattants ont été informés sur les principes de vie dans un camp des Nations Unies. Pas d'armes blanches et des bazars notamment. La MONUSCO les a informés qu'ils vont rester ici quelques jours en attendant l'arrivée de leur famille et surtout l'issue des discussions entre la SADC et leurs dirigeants. Car ce sont ces discussions qui vont définir la suite de ces processus. Dans ces camps où la sécurité de ces éléments est assurée par les casques bleus, ils sont totalement pris en charge par l'équipe de la MONUSCO en attendant leur identification complète dans les jours qui suivent. Depuis Kanyabayonga, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
72 heures après la décision de FDLR de déposer les armes pour se consacrer à la lutte politique, des réactions, je voulais dire, nous parviennent encore. Elles viennent notamment des organisations civiles nationales et internationales. Si certaines demandent au gouvernement congolais de relocaliser le site de regroupement de Walikale, d'autres lui demandent en revanche de poursuivre la traque des rebelles. Sifa Maguru depuis Goma nous en dit plus.
Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi, des organisations des droits de l'homme fustige le fait que les éléments FDLR seront accueillis dans un même centre que d'autres groupes armés locaux à Walikale, ce qui présente des risques. Il s'agit de Carrefour pour la justice, le développement et les droits humains, CJDH, et Information pour tout le monde, ITEM en sigle. Ceux-ci contestent également les choix de Walikale à cause de la présence des victimes des atrocités des FDLR dans ces territoires. Fortuna Maronga, l'un des responsables de ces organisations.
Pour les USA et consorts, c'est dans le territoire de Walikale, donc on n'a pas déplacé les FDLR, c'est un pas en avant, un pas en arrière.
D'autre part, la coordination de la société civile du Nord Kivu, dans une déclaration publiée ce même lundi, exprime encore des doutes par rapport à ces processus. Elle cite au moins 6 états-majors des FDLR encore actifs dans différents territoires. Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile.
Nous savons que dans le triangle territoire de Rutshuru, Lubero et Walikale, radicale, il se compte plus de 2000 combattants. Et lorsqu'à l'occasion des cérémonies solennelles de reddition, le FDLR ne présente que 150 éléments, nous pensons que c'est là un signe avant-coureur demandant les manœuvres de ce FDLR à pouvoir retarder toute planification de la MONUSCO et des FARDC des opérations visant à les traquer.
Notez aussi que dans une déclaration conjointe publiée ce dimanche, les envoyés spéciaux des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union africaine, de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, ainsi que les patrons de la MONUSCO ont jugé insignifiant le nombre de combattants qui se sont rendus.
Merci Sifa Amagourou pour tous ces détails. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous avez participé au lancement officiel vendredi dernier du processus de reddition des combattants rwandais FDLR dans les Kivu. Dites-nous comment vous analysez d'abord cette annonce faite par les FDLR.
Oui, merci beaucoup madame. Je viens de suivre beaucoup de réactions. Mais moi, d'entrée de jeu, je pense que nous devons être, nous Congolais, finalement responsables de ce que nous disons. Les FDLR ont constitué un danger permanent pour la RDC, pour la région des Grands Lacs. Ils ont annoncé le 30 décembre 2013 qu'ils devaient déposer les armes. Le 18 avril, ils ont fait des invitations un peu partout à la SADC, aux Nations Unies, pour dire qu'ils devaient déposer les armes le 30 mai. Ils l'ont fait. C'était désarmement volontaire. Et moi, en tant que gouverneur, je ne peux que saluer cet acte-là. Parce que j'ai eu à gérer concomitamment avec les militaires de guerre depuis 7 ans ici. Je n'ai jamais vu, même dans les opérations les plus atroces, une opération au cours de laquelle nous avons réussi à tuer 105 rebelles, une opération au cours de laquelle nous avons réussi à récupérer 102 armes, dont 10 armes lourdes, 12 armes lourdes. Donc je crois que nous, les Congolais, nous devons quand même savoir analyser objectivement. Aujourd'hui que les FDLR se sont rendus au nombre de 105, ce que même les opérations militaires ne peuvent jamais faire en une journée et en 2 heures, nous devons tout d'abord commencer par saluer cet acte-là, parce que la première chose, c'est que c'est le gouvernement congolais qui gagne, parce qu'il préserve les vies humaines que les opérations militaires occasionneraient si on allait affronter ces gens.
Et vous estimez, monsieur le gouverneur,
le gouvernement congolais gagne, oui.
Vous estimez que cette fois-ci, c'est la bonne ou la meilleure, parce que ce n'est pas la première fois que les FDLR annoncent leur reddition, mais après, ils retournent dans leur camp où ils sont concentrés, hein, ils sont éparpillés à travers les Kivu là-bas, ils retournent dans leur caserne. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ils sont sincères?
Bon, c'est la bonne, c'est la mauvaise. Moi, je crois qu'il n'appartient pas à la partie congolaise, disons gouvernementale, de devoir se prononcer. On n'a qu'à demander aux FDLR si cette fois-ci c'est la bonne option ou la mauvaise. Mais pour nous, partie gouvernementale, nous nous réjouissons du fait que les FDLR, par le fait de déposer les armes aujourd'hui, ils permettent de préserver les vies humaines qui auraient dû être perdues à Kanyabayonga, à Buleusa, à Walikale, etc. Vous savez que la présence des FDLR a été à l'origine de toutes les guerres que nous avons connues. En 96 avec l'AFDL, en 98 avec le RCD, en 2004, 2005, 2007 avec le CNDP, en 2012 avec le M23, toutes ces guerres qui se sont succédées ont eu comme motif la présence des FDLR sur le sol congolais. Si aujourd'hui on peut se rassurer qu'ils déposent les armes et que ce motif-là cesse d'être l'origine des guerres à répétition dans la partie orientale de la RDC, je crois qu'on ne peut que les saluer. Sans savoir, est-ce que c'est la bonne voie aujourd'hui, je crois que nous devrions évaluer la fin du processus pour nous rendre compte si cette fois-ci les FDLR ont donné le meilleur engagement d'eux-mêmes.
Et que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale qui estime insignifiant les nombres des combattants FDLR qui se sont rendus vendredi, le jour du lancement officiel? 105, j'estime que c'est insignifiant. Et aucun officier FDLR n'était présent.
Non, moi je pense que peut-être on n'a pas bien analysé la question. Moi je sais qu'il y a 105 FDLR qui se sont rendus, parmi lesquels nous avons 10 commandants. Et vous imaginez, là où 105 personnes peuvent commettre des violations des droits de l'homme, aujourd'hui, on ne peut plus assister à ces violations-là. Qu'est-ce que nous regrettons finalement? Nous voudrions que ces gens continuent à rester en brousse pour violer nos femmes et nos mamans, ou nous voudrions les regrouper? Donc je crois que la communauté internationale devra également analyser de façon objective les choses. Et de deux, nous ne sommes qu'à la première journée, c'était le 30 mai,
En une journée, on a 105 personnes, on a 102 armes. Pourquoi les gens veulent qu'en une journée, nous ayons 1000 armes, alors que ces gens sont disséminés à travers le territoire du Nord Kivu à des centaines et des centaines de kilomètres? Donc je crois que mettons l'État au temps pour voir les premiers jours, on a eu 105, qu'est-ce qu'on aura la semaine suivante, qu'est-ce qu'on aura l'autre semaine, parce que le gouvernement congolais a établi effectivement un chronogramme et puis un calendrier avec des sites de regroupement, des sites de relocalisation pour permettre à ce que, à chaque fois qu'il y ait des gens qui se rendent, la destination devrait être connue pour qu'on ne les laisse pas longtemps dans le Nord Kivu afin que le bourreau ne vive pas avec les victimes. C'est tout à fait normal pour le gouvernement.
Alors, monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Papi Kalwahali du Nord Kivu dans la ville de Goma. Ce processus est pire mascarade. Du fait que le gouvernement rwandais n'est pas partie prenante du processus ni associé. Le gouvernement rwandais, jusqu'à présent, qualifie les FDDR comme des génocidaires et qu'il ne peut pas négocier avec ces génocidaires.
Monsieur le gouverneur, réaction.
Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le gouvernement rwandais, c'est la population congolaise qui a souffert pendant 20 ans de la présence de ces FDDR. Si aujourd'hui, les FDDR peuvent quitter et rentrer chez eux, je crois que le gouvernement rwandais gagne à récupérer ses citoyens. Et nous gagnons à réoccuper nos localités, à les administrer. Donc je crois que Papi Kalwahali doit être d'accord avec moi que le souci du gouvernement congolais, c'est de voir ces gens quitter là où ils ont commis des atrocités pour que nous puissions administrer nos populations, pour que nous y commencions des actions de développement et pour que finalement notre région cesse d'être le prétexte de toutes les guerres par la présence permanente de ces forces sur le sol congolais.
Et donc, vous n'êtes pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord avec lui
lorsqu'il parle d'une pire mascarade.
Oui, mascarade ou pas, moi je renvoie tout le monde à l'évaluation du processus. C'est à la fin du processus que nous saurons si l'engagement qui a été donné par les FDLR a été tenu. Il ne m'appartient pas à tant que parti gouvernemental de savoir si l'engagement sera tenu ou non. Parce
Merci.
Que ce n'est pas moi qui ai déclaré que je vais rendre les armes le 30 mai.
Merci,
il faut que
monsieur
les personnes
le
qui ont déclaré cela puissent être évaluées à la fin du processus.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Juvenal Mounoubomoubi, vous êtes député national de l'opposition, élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre du parti politique UNC. Quelle est votre lecture à vous de ce lancement officiel du processus des redditions des combattants rwandais FDLR dans l'Ikivu?
Merci, madame. Tout d'abord, je salue le gouverneur Paluku ainsi que monsieur Dismas Kitenge, avec qui je participe dans ce débat. Disons que c'est une petite lueur d'espoir, raison pour laquelle je ne recommanderais pas qu'on crie victoire. Pourquoi? Parce que nous connaissons les modes d'agir des FDLR. Les annonces, par exemple l'annonce de la fin de l'année passée, eh bien ce n'était pas la toute première, donc la vigilance est recommandée. Mais comme je l'avais dit sur les antennes même des radios Capi Dialogue entre Congolais, c'était le 5 février 2014, après effectivement les communiqués de la fin de l'année, qu'il ne fallait pas minimiser cette déclaration et qu'il fallait prendre au mot les FDLR. Et je crois que c'est ce qui a été suivi. Pourquoi? Parce que la communauté internationale s'est effectivement rendue dans les sites où se trouve le FDLR et voilà, il y a eu quelques rendus. C'est vrai que le nombre n'est pas significatif hein, et là je suis tout à fait d'accord avec les envoyés spéciaux lorsqu'ils estiment que c'est insignifiant. Pourquoi? Parce que avoir clairement, il n'y a pas eu des gros poissons en fait qui se sont rendus. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut maintenir la pression militaire sur les FDLR. Et quand je parle de la pression militaire,
malgré leur volonté de pouvoir désarmer, il faut continuer à maintenir cette pression militaire.
Oui, je ne pense pas qu'il faille une trêve. Le moment n'est pas venu pour une trêve. La résolution 2098 du Conseil de sécurité existe. Elle doit être appliquée. Mais je crois que parallèlement au maintien de la pression militaire, il faudrait continuer à lancer des messages pour un désarmement volontaire. C'est important. Donc à la fois qu'on maintient la pression militaire, au même moment, il faut lancer des messages d'appel au désarmement volontaire, des messages de sensibilisation. Voilà. Donc, par rapport maintenant à la relocalisation ou au regroupement, je suis d'accord avec la société civile de Walikale qui estime qu'il ne faudrait pas qu'il reste dans les mêmes lieux, c'est-à-dire, à l'occurrence ici, le territoire de Walikale. Je souhaite qu'ils soient le plus vite possible rapatriés dans leur pays. Raison pour laquelle un dialogue devrait déjà être engagé entre la communauté internationale, la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est le pays d'où ils sont ressortissants, pour qu'ils suivent les programmes d'EDR. Bien évidemment, il faudra différencier parmi eux ces accusés d'actes de génocide en 1994. Ils doivent nécessairement être conduits devant la justice, mais je sais aussi que d'autres sont nés après 1994 et qui doivent reprendre une vie civile normale au Rwanda. Donc la disposition du Rwanda, la collaboration du Rwanda à cette étape, elle est importante. Et il faudrait, peut-être sans parler de pression, mais il faudrait effectivement que la communauté internationale, comme elle s'est impliquée, aller même jusqu'à Kateku, où ils se sont rendus, que la même communauté internationale engage des contacts avec Kigali, des contacts avec Kinshasa, pour que les rapatriements se fassent le plus vite possible. Je ne suis pas d'accord qu'il faille les relocaliser ou les amener.
Rapatriement, il faudrait que le gouvernement rwandais accepte de recevoir ces combattants hutus.
Bien évidemment, si le Rwanda veut la paix dans la sous-région des Grands Lacs, eh bien, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient d'accueillir ces gens. Surtout que nous faisons, plusieurs analystes font les distinguos entre ceux-là accusés de génocide ou soupçonnés de génocide et d'autres qui ne sont pas accusés de génocide. Donc, si le Rwanda pourrait aider les autres pays de la région et s'aider soi-même pour que la paix soit une réalité dans la sous-région, je ne vois pas pourquoi elle va se soustraire de ses responsabilités. Pourquoi? Parce que ce sont des ressortissants rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. Il faut savoir que la question FDLR, c'est une question importée. Elle vient du Rwanda. Et les populations de l'Est du Congo, que ce soit à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, au Sud Kivu et partout, les populations n'ont pas demandé. En 15 jours, les populations ont demandé à ce que des hommes en armes, avec armes et bagages, entrent dans le territoire congolais. Ils devraient être désarmés.
En parlant, excusez-moi, honorable Mounoubo, en parlant de relocalisation, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a annoncé dans un point de presse que ces combattants seront relocalisés provisoirement dans l'ouest de la RDC. Est-ce que ça serait une solution?
Je lis effectivement une dépêche de l'agence France Presse qui cite le gouverneur Paluku, le gouverneur qui préconisait à ce que, dans un premier temps, qu'il soit regroupé à Walikale et dans un deuxième temps, qu'il soit relocalisé à Irebou, hein, ce qu'il a appelé relocalisation provisoire. Moi, je crois que ce soit à Irebou, que ce soit dans un autre territoire, si nous nous accordons tous à dire que c'est un fardeau sur les populations congolaises, moi, je ne pense pas que c'est une bonne justification, ce n'est pas une bonne stratégie de les éloigner ou de les regrouper à l'intérieur du territoire national. Moi, je crois que le mécanisme devrait être le plus rapidement activé pour que ces personnes qui se sont rendues rentrent chez elles dans leur pays d'origine. Ils ne doivent pas rester longtemps, que ce soit à Kanyabayonga où ils se trouvent en ce moment, que ce soit à Walikale où on envisagerait les envoyer ou à Irebou, ce n'est pas une solution. Il faut qu'ils rentrent le plus rapidement possible au Rwanda.
Alors, on va prendre rapidement pour vous, honorable Mounoubo, cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
C'est Gérard Kambale Kazingoufou de Beni, dans la province du Nord Kivu. Tout homme averti sait bien que les FDLR, face à l'opération militaire qui vise à les traquer, cherchent à distraire l'opinion, tant nationale qu'internationale, pour jouer la prolongation. Ces rebelles ne quitteront notre territoire que par la puissance de feu.
Alors il faut utiliser la force pour faire partir ces FDLR.
Il ne faut pas écarter l'approche militaire. Pourquoi? Parce qu'il existe une résolution des Nations Unies. Il n'y a pas de trêve, je ne pense pas. Il n'y a pas une disposition de la résolution qui dit que voilà, lorsqu'ils vont commencer à se rendre, la résolution cessera de s'appliquer.
Est-ce que c'est une façon pour eux de distraire l'opinion nationale et internationale? Dit cet auditeur, le fait d'annoncer qu'ils vont déposer les armes.
Alors, je ne me place pas non plus dans cette logique-là, parce que si je considère que voilà, c'est une mascarade et tout ça, en fait, là, on est dans une logique de minimiser, de se méfier. Ça peut être une petite fenêtre, pourquoi pas. Raison pour laquelle, je crois, il faut continuer, comme je le disais, et à prendre la mesure de la chose, à les prendre au mot, à les suivre. Si, par exemple, ils donnent un autre rendez-vous au sud Kivu. Je crois qu'il faut y aller, il ne faut pas s'en méfier.
Merci, honorable Juvenal Mounouvo. Dismas Kitenge, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Vous êtes également président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme, basée à Kinshasa. Bonsoir, on ne s'est pas dit bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelle est votre analyse, vous, à vous, par rapport à ce lancement officiel du processus des redditions de combattants FDLR dans les Kivu pour le gouverneur, en fait, le gouverneur de Nord Kivu salue cet acte et l'honorable Juvenal, maître Juvenal Mounoubo estime que c'est une lueur d'espoir.
À ce qui me concerne, il y a quatre éléments qu'il faut prendre en considération. Le premier élément, c'est saluer les efforts qui ont été déployés sur le plan militaire, politique, diplomatique et juridique. Et tous ces efforts ont abouti à une certaine avancée. Une certaine avancée, c'est que l'FDLR a été obligé de faire une déclaration de se désarmer volontairement et de nous donner les premiers actes. C'est que les quatre éléments sont, un, les efforts, deux, les avancées, trois, les résultats que je qualifie de faible, et quatre, j'ai dit les défis. Alors, ce qui concerne les efforts, il faut ici saluer les efforts qui ont été déployés par divers acteurs, les acteurs nationaux, l'armée congolaise, les acteurs internationaux, la MONUSCO avec la brigade d'intervention qui a mis la pression, les efforts diplomatiques, il faut saluer toutes les initiatives qui ont été prises par-ci par-là, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC. Sur le plan juridique, il ne faut pas non plus oublier la pression qui a été exercée par la Cour pénale internationale à l'époque où il y a eu un mandat contre Sylvestre Madoukare. Aujourd'hui, la FDLR se trouve dans un étau de pression. Il faut saluer tout ça. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette avancée-là. Avancée que la FDLR était finalement obligée de se désarmer, de faire une déclaration de se désarmer. Ensuite, nous avons ces résultats. Ces résultats, aujourd'hui, que moi je qualifie de très faibles, d'insuffisants, de non rassurants, et plein de défis.
Pourquoi
je dis c'est faible? C'est faible, c'est-à-dire au regard de la pression, des efforts qui ont été déployés, on s'entendait à ce qu'on ait un peu plus que ce qu'on a, au-delà des 105 éléments d'air qui se sont désarmés. Et ça, ça montre que c'est faible. Faible au regard des moyens qui ont été mis en place, c'est-à-dire la pression. Des avancées, c'est vrai qu'il y a cet acte de bonne foi qu'il faut saluer, mais faible, insuffisant, c'est que
mais le ça gouverneur a dit que c'est une première, pour la première journée, je voulais dire, 105 combattants se sont rendus, c'est quand même quelque chose de grand pour une première journée.
Au contraire, ça devait être plus que ça. Si nous prenons tout simplement un effectif comme ça imaginaire, d'FDLR qui serait au Congo, autour de 2000-4000, on aurait dû voir vraiment apprécier cet acte de bonne foi d'FDLR si au moins on allait peut-être à 500.
C'est tout un processus.
Oui, je sais que c'est tout un processus, mais le premier acte, c'est ça qui rassure le partenaire. Et le premier acte aujourd'hui est tellement faible que ça nous renvoie à ce que moi j'appelle les défis. Alors la faiblesse, l'insuffisance, c'est que aujourd'hui, il faut toujours à côté de cette déclaration de bonne foi d'FDLR, il faut une pression. Une pression non seulement militaire, il faut militaire certainement, mais aussi une pression diplomatique, aussi une pression politique sur les autorités d'FDLR. Mais aussi, il faut une pression juridique de droit et de dire que, par exemple, ceux qui se rendent, s'il y en a parmi eux, ceux qui ont commis des crimes internationaux le plus grave, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les actes de génocide, ceux-là ne peuvent pas faire partie du processus aujourd'hui d'EDR qu'on peut appeler. Il faut que cette pression-là existe. Or, à l'heure actuelle, je vois de la plupart des acteurs, que ce soit nationaux, que ce soit internationaux, il n'y a pas cette pression du droit pour dire que il faut le faire, mais écoutez, là, on ne va pas prendre les personnes
les envoyés spéciaux, voilà. On dit ça, ils ont évoqué ça dans leur communiqué.
Il n'y a pas
tous
que les envoyés.
Ceux qui sont accusés de crimes de guerre ne seront pas. Il ne faut pas les accepter dans ce processus de réduction.
Mais,
ils doivent être jugés.
Mais c'est bien de faire cette déclaration-là. Mais cette déclaration doit être faite par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que cette déclaration doit être appropriée aussi par les responsables de FDLR, qui doivent dire bien que nous sommes d'accord pour le désarmement. nous sommes d'accord, mais il faudrait que eux-mêmes aussi s'approprient ces principes du droit international qui dit qu'on ne peut pas accepter dans un processus de désarmement les personnes sur lesquelles pèsent les lourds soupçons de commission des crimes internationaux. Mais il faut que ça soit approprié aussi par les autorités congolaises. Les autorités congolaises doivent avoir ces langages durs de fermeté, non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan des droits. Pourquoi ? Puisque ça a tendance, ça a des rapports à réhabiliter les victimes dans leurs droits, à avoir le droit à la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Il ne faut pas que le FDLR, on ait un sentiment que le FDLR vont quitter le Congo sans rendre compte de tous les crimes dont leurs hommes se sont rendus responsables. Et c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui les défis, c'est que les défis du processus, c'est quoi ? C'est qu'il faut vraiment une forte pression sur toutes les parties. Il ne faut pas seulement sur le FDLR, mais sur le Rwanda aussi. Pourquoi ? Puisque disait tout à l'heure Maître, il faut que ces personnes qui ne sont pas d'origine congolaise, qui vont se rendre au Rwanda, que le Rwanda les accepte. Que le Rwanda dise maintenant que ce sont des Rwandais qui doivent rentrer chez nous et nous sommes prêts à les accueillir. Et voilà. Donc, il faut qu'il y ait cette pression internationale également sur le Rwanda. Au niveau de la RDC, il faut que la RDC dise que les victimes congolaises qui ont subi les actes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les actes de génocide ou autres crimes internationaux, par exemple la torture, les violences sexuelles, dont les éléments de l'air se sont rendus coupables, nos victimes ont droit à la justice. Et il faut que la Cour pénale internationale profite de ces contextes, et ça c'est le devoir du procureur de la Cour, de lancer un message clair vis-à-vis des éléments de FDLR, pour que ça soit une conditionnalité à ces processus-là. Et enfin, ce que j'ai dit, le quatrième élément, il faut que les processus soient assis sur la justice. La paix sans la justice, c'est une paix précaire. C'est une paix qui ne sera pas durable. Merci,
Dismas Kitenge, il y a une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Je reste Boningo depuis Kinshasa. Je pense que la question relative à la réduction des FDLR est une bonne chose. Mais une question que je pose est celle de savoir comment justifier la politique et les devoirs de mesures que la communauté internationale applique lorsqu'il s'agit d'un conflit opposant un État et des troupes rebelles. Par exemple, en République démocratique du Congo, et notamment ce dernier cas qui vient de s'achever entre la RDC et les troupes M23, la communauté internationale a imposé à la République démocratique du Congo de signer un accord avec les M23. Alors, comment justifier que lorsqu'il s'agit des FDLR, d'ailleurs, qui opèrent dans un sol étranger, et que celle-ci puisse déterminer volontairement sans une contrainte?
Dismas Kitenge, réaction, deux poids, deux mesures, la communauté internationale fait la pression sur la RDC de négocier avec des rebelles, alors que sur le Rwanda, il n'y a pas de pression.
Je comprends, la première difficulté que la communauté internationale a aujourd'hui à aider le Congo à résoudre les problèmes, à la fois qui sont internes et externes, c'est de dire au Congo, ben, par où il faut commencer, la complexité du problème. Et la communauté internationale tend à hésiter, tend à trouver une voie dans cette bourbier congolais qui n'est pas facile à résoudre. C'est pour cela ces tâtonnements-là, parfois, qu'on constate dans le chef de la communauté internationale s'explique. Deuxièmement, mais il y a aussi la responsabilité propre du gouvernement congolais, dans tout le processus, d'être un interlocuteur valable de la communauté internationale. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour les années antérieures. Mais aujourd'hui, heureusement que les choses c'est clarifie, les choses commencent à devenir un peu plus claires, on voit que le gouvernement commence à se positionner, c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Alors, troisièmement, c'est aussi les pays qui entourent. Dans la communauté internationale, c'est un fourre-tout. Les Rwanda fait partie de la communauté internationale. Et les Rwanda, tout en faisant partie de la communauté internationale, est aussi une des parties au conflit en République démocratique du Congo. Voilà la complexité de la communauté internationale.
Merci
qui explique que la communauté a une approche un peu difficile à comprendre.
Merci Dismas Kitenge, Julien Paluku, par rapport à toutes les exactions commises par le FDLR, maintenant qu'ils ont décidé de se rendre, est-ce que pour ceux qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, seront poursuivis par la justice?
Oui, tout à fait. Je crois que le gouvernement congolais n'a pas dit qu'il va exempter tous ces criminels qui ont commis le génocide au Rwanda ou tous ceux qui sont passibles des crimes commis en République démocratique du Congo. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est d'accepter le désarmement volontaire avec tous les avantages que je vous ai cités ici. Si le gouvernement congolais aujourd'hui
ne veut pas qu'on ne l'ont pas accepté mes co-débatteurs ici, ne veut pas qu'on laisse les gens au Nord Kivu. C'est parce que nous avons une expérience. En 2008, c'était en juillet, on a regroupé les FDLR à Katiki, c'est aussi du territoire de Lubero, mais quelques jours après, le CNDP a commencé la guerre et s'est dirigé pour aller détruire ce camp. Et nous savons qui était derrière le CNDP. Voilà pourquoi nous pensons que ces gens-là, avant même qu'on ne puisse savoir qui est criminel, qui est ceci, on les relocalise ailleurs, où se fera le tri, et à partir de là, on peut savoir qui est criminel, qui ne l'est pas, parce que la justice a déjà documenté tous les cas qui ont été commis par ces FDLR, eh bien, personne ne peut passer inaperçu. Donc, pour le gouvernement congolais, il n'est pas question de laisser les gens impunis.
Et lorsqu'ils seront relocalisés, ces FDLR, ils vont rester combien de temps dans les endroits où vous allez les envoyer?
Il y a un chronogramme, madame. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent qu'il y a un faible résultat. Parce qu'ils ne connaissent peut-être pas les chiffres. Nous savons que le nombre d'FDLR attendus au Nord Kivu, c'est 800. Le nombre d'FDLR attendus au Sud Kivu, c'est 600. Par contre, le nombre de dépendants pour les deux provinces, c'est autour de 4200. Et si aujourd'hui, en une journée, sur 800 personnes attendues, nous avons 105, ceux qui connaissent un peu les calculs mathématiques, c'est autour de 13 à 15% des résultats obtenus en une journée. Et pour le gouvernement, il pense que ces gens-là doivent être relocalisés ailleurs. Il y a un chronogramme de 22 jours pour qu'à jour J plus X, à jour J plus Y, on sache qui sera où, dans quelle localité, pour quel objectif.
Mais
il faut arriver à la relocalisation provisoire. C'est là que la communauté internationale pourra maintenant se décider, parce que les combattants qui auront disposé des armes, mais qui les auront données, peuvent maintenant disposer du statut de réfugié par le fait qu'ils ne disposent plus des armes. Et là, ça sera maintenant les HCR et la communauté internationale qui vont agir sur ces personnes-là que le gouvernement congolais a réussi à désarmer sur son sol.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a certains analystes qui estiment que tant que les FDLR ne seront pas rapatriés dans leur pays, ils vont continuer à servir de fonds de commerce aux guerres imposées à la RDC. Ce n'est pas le fait de les relocaliser qui serait une solution.
Oui, les fonds de commerce, je suis d'accord, mais les fonds de commerce est aussi tributé de la proximité des FDLR avec les pays d'origine. C'est la raison pour laquelle la relocalisation ailleurs a pour objectif d'éloigner d'abord ce prétexte pour que l'on traite la question en toute objectivité. Et la finalité des FDLR, c'est que les FDLR ne constituent pas une nationalité. Ils sont de nationalité rwandaise. S'ils doivent être relocalisés, c'est pour que, in fine, ils puissent être rapatriés chez eux, ou lorsqu'ils vont disposer du statut de réfugié, que les gens qui le veulent demandent un statut d'asile pour autant qu'ils ne soient pas concernés par les crimes internationaux. C'est la démarche, madame, que nous devons suivre, parce que la communauté internationale n'agit pas en un jour. Les gens qui pensent qu'on peut les prendre aujourd'hui et demain ils sont au Rwanda, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les mécanismes de fonctionnement de la communauté internationale.
Merci, monsieur le gouverneur. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de Robert Bahomé de Bukavu qui dit ceci: la reddition des FDLR pour leur rapatriement au Rwanda est à saluer, mais le risque est grand qu'elle demeure timide ou carrément ne se concrétise pas tant que le Rwanda ne s'y impliquera pas. Je pense que par rapport à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba, il aurait plutôt fallu que la communauté internationale ou la CIRGL mettent sérieusement la pression sur le Rwanda pour que ces derniers acceptent de recevoir d'abord les FDLR et d'organiser par la suite le dialogue inter-rwandais France sincère afin de trouver face à face la solution. Qu'est-ce que vous en pensez, maître Juvenal?
Je pense que la question de l'ouverture politique au Rwanda, c'est une question importante. Ce n'est pas puisque nous parlons aujourd'hui des FDLR. Mais d'une manière générale, si nous voulons la paix dans la sous-région de Grand Lac, le Rwanda, tout comme le Congo et d'autres pays signataires du pacte de Nairobi, créateur de la CIRGL, je crois que la question de l'ouverture politique au Rwanda, c'est une question importante. Et la communauté internationale devrait aussi insister là-dessus. Évidemment, parler de l'ouverture politique ne veut pas dire uniquement ou nécessairement dialogue inter-rwandais. Donc moi, je ne suis pas acteur politique au Rwanda, capable ou à même de demander un dialogue inter-rwandais. Mais ce que je souhaite comme citoyen ou habitants de la sous-région des Grands Lacs, je souhaite que la paix et la démocratie soient une réalité au Congo, que les deux soient une réalité au Rwanda, au Burundi et partout. Raison pour laquelle il faut nécessairement une ouverture politique. Donc je suis d'accord avec cet auditeur qui pense ainsi.
Alors il y a aussi la réaction, la question que se posait au gouverneur tout à l'heure par rapport au fait que les FDLR, tant qu'ils resteront en RDC, ils vont constituer toujours un problème.
Bien sûr.
Tant raison... que le Rwanda n'acceptera pas de les recevoir.
Bien sûr, raison pour laquelle la diplomatie doit se montrer agissante. La diplomatie de la SADC. Vous savez que la SADC, par rapport à ses redditions, la SADC a beaucoup travaillé. Et la CIRGL, la MONUSCO, donc la communauté internationale, devrait, comme je venais de le dire, engager le plus rapidement possible un contact avec Kigali pour que Kigali accepte, accueille le plus rapidement possible ses ressortissants. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Même s'ils ont fait des 20 ans ici, ils ne sont jamais devenus Congolais. Bien évidemment que le distinguo doit être fait, que ceux qui sont accusés de génocide ou poursuivis par le tribunal pénal international d'Arusha, eh bien qu'ils soient déférés devant la justice. Et je rejoins un peu M. Dismas Kitenge, les soucis de justice aussi au Congo. Vous savez qu'ils existent depuis avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome. Et dès là, une demande de justice, nos juridictions devraient, pourquoi pas, s'occuper de cela. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec ceux qui pensent que pour les crimes commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire avant 2002, il faut des solutions, soit un tribunal pénal international sur le Congo, soit alors les chambres mixtes spécialisées. Je suis d'accord, par exemple, avec les chambres mixtes spécialisées. Ça nous aidera à donner une réponse judiciaire à tous ces crimes qui ont été commis sur notre sol.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo, Dismas Kitengeya, Aimé Kasongo, Saïd, qui nous écrit depuis Baraka au sud Kivu. Les FDLR ont violé, pillé, tué des paisibles populations. Il faudrait que leurs dirigeants ou leurs chefs donnent les nombres exacts des hommes qui sont disséminés à travers tous les pays. C'est bien de montrer cette bonne volonté, mais il faudra qu'on puisse d'abord le localiser tous avant de penser à leur relocalisation et rapatriement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un défi énorme aujourd'hui de donner des statistiques fiables, acceptées par toutes les parties, sur le nombre d'FDLR qui sont au Congo. Et ça, c'est la responsabilité à la fois, la responsabilité première de chefs de FDLR qui sont aujourd'hui partie prenante dans ces processus de dialogue, de nous donner les chiffres fiables et de nous dire là où ils sont. Mais aussi, c'est la responsabilité de des autorités congolaises sur les territoires desquels se trouve l'FDLR d'exercer la pression sur ces responsables, ces dirigeants d'FDLR, pour qu'ils donnent la pression. Mais je voulais aussi aborder très rapidement la question aujourd'hui. Allez-y. De la relocalisation d'FDLR. Moi, je comprends très bien qu'il y a cette nécessité de les éloigner de leurs frontières avec le Rwanda, mais aussi en même temps, je dis qu'il y a, une question importante à laquelle il faut faire attention, puisqu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été. L'FDLR, à un moment donné de l'histoire de la RDC, dans les contextes des conflits, ont été quand même des complices ou des alliés, soit de groupes Mai Mai, soit encore des FARDC contre les groupes rebelles étrangers, tels que le M23. Et avant M23, on sait tout ça. Les FDLR ont lutté contre les RCD et le consort. Donc, ils ont été quelque part, à un moment de l'histoire de la RDC, des alliés des FARDC, des Mai Mai, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, les éloigner des frontières... près des frontières rwandaises, vous les amenez ailleurs. Tant qu'on n'a pas réussi à couper les liens qui les unissent d'une manière ou d'une autre avec un certain monde militaire congolais ou avec un autre monde de groupes armés qui sont entre guillemets nationaux, ça créera toujours des problèmes. Moi, je pense que le sérieux du processus aujourd'hui d'éloignement ou de la relocalisation d'FDLR passe par vraiment les efforts sincères des autorités congolaises pour traquer ce groupe qui a été reconnu comme un groupe terroriste, un groupe force négative. Il faut pas qu'on se cache la face. Il y a eu des moments difficiles. Alors, je voudrais dire aussi, lorsqu'on parle des résultats faibles, c'est au regard de moyens qui ont été consacrés sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, et qu'on ait le premier geste des autorités d'FDLR des 105. Quoi qu'on dise, c'est faible. C'est faible puisqu'on aurait bien voulu avoir plus que ça au regard des pressions, des moyens qui ont été engagés. On ne dit pas que, comme vous l'avez dit et comme ça a été dit, c'est un processus. Mais là, ce qui va nous permettre d'avoir un bon résultat, c'est l'accélération de la pression. Merci. La pression. Donc voilà un peu. Et il faut dire aussi l'impunité zéro pour FDLR.
Merci, Dismas Kitenge, Julien Paloukouya, Jérémy Kiambou, qui vous pose cette question au cas où Kigali refuse d'accueillir ses combattants accusés de beaucoup de maux. Que fera la RDC et la communauté internationale? Alors, vous allez répondre à la place de la RDC. Que fera la RDC qui semble voir le dialogue entre Rwandais comme un non-événement, selon Jérémy Kiambou?
Non, madame, je pense que Jérémy n'a pas raison. Les Rwandais, dans tous les cas de figure, n'a aucun argument de refuser ses compatriotes. Les FDLR, c'est un terme inventé pour signifier force de libération du peuple rwandais. Mais dans la valeur intrinsèque de ces gens-là, ils sont d'abord rwandais. C'est-à-dire, s'ils nous appartenaient aujourd'hui de nous décider, on les amènerait à la frontière et les Rwandais s'en occuperaient. Donc pour Jérémy, c'est hors de question de dire qu'au cas où les Rwandais refuseraient, il n'a aucun argument de refuser ses compatriotes parce que tous les textes internationaux ne reconnaissent pas les apatrides à travers la planète. Je voudrais revenir quand même à une petite incise qu'a soulevé M. Bismarck, qui a dit que les FDR sont nos alliés. Et moi, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit balayer tout de suite. Des gens qui nous tuent, qui nous ont violés, qui nous ont massacrés, je crois que ce n'est pas commode que nous, les Congolais, nous affirmions devant, dans une radio internationale comme la radio Okapi, que ces gens ont été nos alliés, alors que nous savons les violations qu'ils ont commises sur nos populations. C'est pourquoi nous sommes en train de militer pour qu'ils quittent. Parce que nous militerons qu'ils quittent, qu'ils sont nos alliés, ces gens, alors qu'ils commettent des violations des droits de l'homme. Donc je crois qu'il faut balayer tout ce argument-là pour qu'ils ne demeurent pas dans la mémoire collective.
Alors, ils proposent aussi des efforts sincères de la part des autorités congolaises dans ce processus.
Oui, nous sommes sincères, madame. Je crois que vous avez suivi le président de la République quand il avait défini la triste.
Allô? Allô, monsieur le gouverneur, on vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez bouger pour que la ligne s'améliore?
Oui, allô?
Oui, je vous écoute. Vous disiez rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je disais que le chef de l'État n'a jamais renoncé à ces trois options politiques, diplomatiques et militaires. Et que donc aujourd'hui, tout le monde doit savoir que malgré le processus qui est en train d'être amorcé aujourd'hui, l'option militaire reste d'application pour tout réfractaire au processus qui est engagé actuellement. Donc, que les FDLR réfractaires puissent jouer à la malignité, puissent croire qu'ils font des opérations de charme, eh bien, les FRDC n'ont pas renoncé à l'option militaire pour neutraliser tous les éléments qui ont semé mort et désolation en RDC.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. On considère cela aussi comme votre conclusion. Maître Juvenal Mounoubo, il nous reste au moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Ça sera aussi votre dernier mot. Le gouvernement doit déployer beaucoup d'efforts dans ce processus.
Tout à fait. Le gouvernement doit prendre à bras le corps parce que le premier bénéficiaire de ces processus, c'est qui? C'est d'abord la RDC. Parce que nous voulons que nos populations qui sont victimes de ces exactions, de ces violations de droits de l'homme, que nos populations puissent finalement souffler. Alors, je pense, je reviens sur ce que je disais, il faut une pression. Il faut maintenir la pression militaire, et j'ajoute ce que venait de dire Dismas, politique, politico-diplomatique, pour que l'FDLR rende, pour que la reddition soit totale, complète, et pour que le Rwanda accueille ses ressortissants.
Mais est-ce que ça ne va pas décourager ces combattants qui ont envie de rendre les armes, et puis de l'autre côté, ils sont traqués?
Je m'en tiens à la loi, au droit, parce que les droits existants, c'est ça, la résolution 2098. Moi, je ne vois aucune raison qui peut conduire à une suspension de l'application de ces dispositifs, de cet instrument. Mais il faut coupler, évidemment, par la sensibilisation, l'appel au désarmement volontaire. Il faut une pression, comme Dismas le disait, politico-diplomatique, pour que le Rwanda accueille ses ressortissants et qu'on fasse la différence, bien évidemment, entre ceux qui sont accusés de génocide et ceux qui ne sont pas génocidaires. Je ne soutiens pas la relocalisation à l'intérieur du territoire national, que ce soit à Kanyabayonga, ou à Likale, ou à Irebou. Non, ils doivent rentrer chez eux. Le gouverneur venait de dire lui-même que si on s'est décidé, on les amènerait même directement à la frontière. Ça veut donc dire qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils ne doivent même plus faire beaucoup de temps ici. Parce qu'ils étaient relocalisés à un moment donné à Kamina. Ils étaient nombrés à Kamina en 2001-2005. Et puis on n'a pas su par la suite qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tous sont rentrés au Rwanda?
Merci, Maître Juvenal Mounoubou. Dis-moi ce qui t'engue en guise de conclusion, vraiment.
Les acteurs les plus directs du conflit ont été les FDLR, qui sont arrivés au Congo, qui ont commis pas mal de bévues et qui, à un moment donné, ont fait la guerre. Ils ont créé des alliances de part et d'autre. L'histoire, on ne peut pas l'effacer. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, il y a le Rwanda et la communauté internationale, la RDC. Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut à un moment donné que ces processus nous interpellent les acteurs clés pour qu'ils trouvent de stratégies et de moyens conséquents en termes de pression, en termes d'action, mais aussi en termes de justice.
Merci
pour dire que
master.
Le processus ne peut pas être assis sur l'impunité.
Merci,
on veut la paix
merci.
Aussi avec la justice.
Merci Dismas Kitenge, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer et la réaliser. Et Guy Maté, Alain Gung sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci à Guy Manzangou qui était à la mise en onde de micro Kelly. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.